Thomas Hardy, le maire de Casterbridge. Chapitre 22. Un bref retour à la soirée précédente nous fera comprendre l'attitude d'Enchard. À l'heure où Elisabeth méditait son expédition de reconnaissance au domicile de la dame de ses pensées, son père n'avait pas été peu surpris de voir, sur une lettre qu'on lui apportait, l'écriture bien connue de Lucetta. Elle semblait avoir renoncé à la résignation et à la contrition de sa dernière missive, et avoir retrouvé un peu de la légèreté naturelle qui la caractérisait au premier temps de leur relation. « Maison de la place haute. Cher monsieur Henchard, ne soyez pas surpris. C'est pour votre bien et le mien, je l'espère, que je suis venu habiter Casterbridge. Pour combien de temps, je ne saurais le dire. Cela dépend d'un homme, d'un commerçant, d'un maire, qui a le premier droit à ma tendresse. Sérieusement, mon ami, je ne suis pas si folle que ces lignes pourraient vous le faire croire. Je suis accourue ici à la nouvelle du décès de votre femme, que vous aviez crue morte depuis tant d'années. Pauvre femme, elle a dû souffrir sans se plaindre, et malgré son intelligence médiocre, ce n'était pas une imbécile. Je suis heureuse que vous ayez fait votre devoir à son endroit. Dès que j'ai su qu'elle n'était plus, ma conscience m'a fait impérieusement sentir la nécessité de vous prier de tenir votre promesse et de dissiper ainsi la brume que mon étourderie a amassée autour de mon nom. J'espère que vous êtes toujours dans les mêmes intentions et ferez toutes les démarches nécessaires. Mais comme je ne savais rien de votre situation, ni de ce qui avait pu vous arriver depuis notre séparation, j'ai décidé de venir m'installer ici avant d'entrer en rapport avec vous. Vous devez partager mon sentiment sur tout ceci. Je pourrai vous voir dans un ou deux jours. D'ici là, adieu. Votre Lucetta. P.S. Je n'ai pas pu vous rencontrer au passage, l'autre jour, comme je vous l'avais demandé. Mes projets ont été modifiés par un événement de famille qui vous surprendra. Enchard savait déjà que la maison de la place haute attendait un nouvel occupant. Il demanda d'un air intrigué à la première personne qu'il rencontra. « Qui va donc vivre dans la maison de la place ?»«
Une nommée Madame Templeman, je crois, monsieur, » répondit son informateur.
Enchard réfléchissait. « Ce doit être une parente de Lucette, » dit-il. « Oui, pauvre petite, il faut que je lui donne la situation à laquelle elle a droit, c'est incontestable. » La perspective d'une telle obligation morale ne comportait plus pour lui comme autrefois aucun sentiment d'accablement. Il en accueillait au contraire l'idée avec plaisir, sinon avec chaleur. L'amer désappointement qu'il avait ressenti en apprenant qu'Élisabeth n'était pas sa fille et en se trouvant sans enfant à l'avenir avait laissé au cœur d'Enchard un vide qu'il aspirait inconsciemment à combler. C'est cette impression obscure, plutôt qu'un sentiment profond, qui l'avait poussé, par la ruelle déserte, vers la maison de la place haute et vers la porte dérobée où Élisabeth avait failli le rencontrer. Entré dans la cour, il avait demandé à un homme qui déballait une caisse à claire-voie, pleine de vaisselle, si Miss Le Sueur habitait la maison. C'est sous ce nom de Miss Le Sueur qu'il avait connu Lucetta, ou Lucette, comme on l'appelait dans ce temps-là. « Non, » répondit l'homme. « Miss Templeman est toute seule. » Enchard se retira avec la conviction que Lucette ne s'était pas encore installée. Son intérêt était ainsi éveillé lorsqu'il assista le lendemain au départ d'Elizabeth Jane. En l'entendant parler de la maison de la place haute, il se sentit pénétré soudain de l'étrange conviction que Lucetta et Miss Templeman ne faisaient qu'une seule et même personne. Il se rappelait lui avoir entendu, au temps de leur intimité, désigner sous ce nom de Templeman la riche parente qu'il tenait un peu pour un personnage mythique. Bien qu'il n'eût rien du coureur de dot, l'idée de retrouver une Lucette transformée en grande dame par une munificence testamentaire de cette parente prêtait à l'image de son amie une séduction dont elle eût pu être autrement dépourvue. Enchard atteignait, cette époque assagie de l'âge moyen, où les détails matériels prennent un peu plus chaque jour possession de l'esprit. Mais il ne resta pas longtemps dans l'incertitude. Lucetta avait une certaine propension épistolaire, comme en témoignait le torrent de lettres dont elle avait inondé son amie après le fiasco de leur projet de mariage, et à peine Élisabeth était-elle partie que le maire recevait une nouvelle missive de la place haute.
Je suis installée, lut-il, et commence à me sentir à mon aise, bien que le voyage pour venir ici ait été une expédition bien exaspérante. Vous savez sans doute, ou ne le sauriez-vous pas, ce que je vais vous dire. Ma bonne tante Templeman, la veuve du banquier dont vous mettiez en doute l'existence même, et bien plus encore l'opulence, est morte tout récemment, en me laissant une partie de sa fortune. Je ne veux pas entrer dans les détails et me contente de vous dire que j'ai pris son nom pour échapper au mien et à ses tristes souvenirs. Maîtresse de mon destin à l'avenir, j'ai décidé d'habiter Casterbridge et j'ai loué cette maison de la place haute pour que vous puissiez sans inconvénient venir me voir, si cela vous fait plaisir. Mon intention première était de vous laisser ignorer les changements survenus dans ma vie, jusqu'à notre première rencontre dans la rue, mais je me suis ravisée. Vous êtes probablement au courant de mon entente avec votre fille, et vous avez dû rire de la... comment dirais-je, de la toute amicale supercherie qui va la faire vivre avec moi. Notre rencontre a pourtant été purement fortuite. Voyez-vous, Michel, une des raisons qui m'ont incité à la prendre sous mon toit, c'était le désir de vous fournir un prétexte pour venir ici. Vous viendrez la voir, elle, et paraîtrez tout naturellement faire ma connaissance. C'est une bonne et brave fille, et elle trouve que vous l'avez traitée avec une injuste rigueur. Vous avez dû le faire de façon inconsidérée, mais non volontairement, j'en suis sûre. Comme d'ailleurs le résultat de votre humeur a été de la pousser vers moi, je ne puis songer à vous en blâmer. En hâte, je suis toujours votre Lucetta. Les nouvelles apportées par cette lettre produisirent sur l'âme sombre d'Enchard un très heureux effet. Il resta longtemps plongé dans ses rêveries devant la table de son dîner. Les sentiments qui s'étaient desséchés dans son cœur depuis son éloignement d'Elisabeth et sa brouille avec Donald Farfrae se concrétaient, de façon presque machinale, avant leur mort définitive, sur la personne de Lucetta. Elle était évidemment en excellente disposition de mariage. Comment eût-il pu en être autrement, d'ailleurs, d'une pauvre femme qui lui avait assez impulsivement donné son temps et son cœur pour compromettre sa renommée ? C'est la conscience, sans doute, autant que l'affection, qui l'avait poussé à Casterbridge. Mais, à tout prendre, Enchard ne lui en voulait pas. « La petite roublarde !» se dit-il, en songeant avec un sourire à l'amusante et adroite manœuvre de Lucette avec Elizabeth Jane. Sentir qu'il aurait plaisir à voir la jeune femme, c'était pour Enchard courir tout droit chez elle. Il prit son chapeau et se mit en route. Il était entre 8 et 9 heures lorsqu'il frappa à la porte, pour s'entendre répondre qu'occupé ce soir-là, Miss Templeman serait heureuse de le recevoir le lendemain. « Voilà ce que j'appelle se donner des airs, » grommela-t-il, « et quand on songe à ce que nous... » Mais, en somme, la jeune femme ne l'attendait évidemment pas, et il accepta paisiblement cette réponse. Il décida seulement de ne pas revenir le lendemain. « Ces maudites femmes, » se disait-il, « elles n'ont pas un grain de bon sens. » Suivons la pensée d'Enchard, comme un fil d'Ariane, et regardons ce même soir dans l'intérieur de la maison de la place haute. À son arrivée, Elizabeth Jane avait été flegmatiquement priée par une femme d'un certain âge de monter à l'étage supérieur pour enlever ses affaires. Répondant vivement qu'elle ne voulait pas donner tant de peine, elle ôta sans tarder son chapeau et son manteau dans le couloir. On la conduisit alors à la première porte du palier et on la laissa entrer seule. La pièce où elle pénétra était élégamment meublée en boudoir ou en petit salon. Sur un sofa à coussin cylindrique, s'allongeait une jolie femme aux cheveux noirs et aux grands yeux, dont les traits accusaient avec évidence une origine française à un degré quelconque. Elle devait avoir quelques années de plus qu'Elisabeth, et une étincelle luisait dans ses yeux. Devant le sofa, sur une petite table, des cartes étaient étalées, les figures à découvert. L'attitude de la dame était si pleine d'abandon qu'elle bondit comme un ressort en entendant la porte s'ouvrir, mais elle fut vite à l'aise en reconnaissant Elisabeth et courut à la jeune fille avec une impétuosité qu'une grâce innée empêchait seule d'être déplacée. « Eh bien, vous êtes en retard !» s'écria-t-elle, en prenant les mains d'Elisabeth Jane. « J'ai eu tant de petites choses à arranger. Et vous paraissez morte de fatigue. Laissez-moi vous distraire. Je sais des tours merveilleux pour tuer le temps. Asseyez-vous là et ne bougez plus. » Elle ramassa une carte, tira la table à elle, donna rapidement les cartes et dit à la jeune fille d'en choisir une. « Eh bien, avez-vous choisi ? » demanda-t-elle, en abattant la dernière carte. « Non, » balbutia Elisabeth en sortant de sa rêverie. « J'avais oublié, je pensais à vous et à moi, et à l'étrangeté de me trouver ici. » Miss Templeman la regarda avec intérêt et posa les cartes sur la table. « Ah, laissons cela, » fit-elle. « Venez vous asseoir près de moi. Je m'allonge sur le sofa et nous allons causer. » Elisabeth s'approcha en silence, mais avec un plaisir évident. On voyait que, plus jeune d'année que sa nouvelle amie, elle était aussi plus pondérée et plus riche d'idées générales. Miss Templeman reprit sur le sofa sa souple attitude et, le bras sur le front, à la façon d'une composition célèbre du Titien, elle se mit à parler par-dessus son front et son bras à Elisabeth qui était placée derrière elle. « Il faut que je vous avoue quelque chose, » fit-elle. « Je me demande si vous vous en êtes aperçue. Il n'y a pas longtemps que je me trouve à la tête d'une grosse maison et d'une jolie fortune. »«
Pas longtemps ? Ah, vraiment ?»
murmura Elisabeth, dont le visage s'assombrit un peu. « Dans mon enfance, j'ai suivi mon père de garnison en garnison. J'en étais toute troublée et tout étourdie. Mon père était officier. Je ne vous aurais pas raconté cela si je n'avais cru bon que vous connussiez toute la vérité sur mon compte. »«
Oui, oui. »
Elisabeth jetait un regard pensif sur la pièce, sur le petit piano carré à incrustation de cuivre, sur les rideaux des fenêtres, sur la lampe, sur les reines et les rois blonds et bruns des paquets de cartes, et enfin sur le visage renversé de Lucetta Templeman, dont les grands yeux brillants, ainsi vus à l'envers, prenaient un aspect étrange. Elisabeth manifestait pour toutes les connaissances un intérêt presque morbide. «
Vous parlez couramment le français et l'italien, j'en suis sûre, » fit-elle.
« Moi, je n'ai pas pu aller plus loin encore qu'un pauvre commencement de latin. »«
Oh, vous savez, dans mon île natale, la connaissance du français ne constitue pas un gros talent, c'est plutôt le contraire. »
« Quelle est donc votre île natale ?» Miss Templeman parut avoir une certaine hésitation à prononcer le nom de Jersey. « Là-bas, dit-elle, on parle français d'un côté de la rue, anglais de l'autre, et une langue intermédiaire au milieu. Mais il y a longtemps que je n'y vis plus. Mon véritable pays d'origine, c'est Bath, bien que mes ancêtres aient constitué à Jersey une aussi grande famille qu'aucune autre en Angleterre. C'était des Le Sueur, une vieille race qui a fait de belles choses dans son temps. Je suis retournée à Jersey après la mort de mon père. Mais les histoires du passé ne me préoccupent guère, et je me trouve tout à fait anglaise de goût et de sentiment. »
Lucetta s'était un instant laissée entraîner par sa langue. Elle s'était donnée à Casterbridge comme habitante de Bath, et avait des raisons péremptoires pour rayer Jersey de sa vie.
Mais la présence d'Elizabeth Jane la poussait si bien à se libérer de toute contrainte qu'elle avait manqué à une ferme résolution. Elle n'eût pu d'ailleurs trouver, pour une indiscrétion, oreille plus discrète. Les paroles de Lucetta restèrent entre elle et sa compagne, et elle se tint si bien sur ses gardes à partir de ce moment qu'il lui parut impossible de l'identifier avec la jeune Jersiaise qui avait été, à une époque critique, la tendre amie d'Enchard. La moins amusante de ses précautions n'était pas le soin jaloux avec lequel elle repoussait tout mot français qui pouvait, d'aventure, lui montait plus vite aux lèvres que son équivalent anglais. Elle le chassait avec la brusquerie du faible apôtre, devant l'accusation « Ton langage te trahit ». Le lendemain, toute l'attitude de Lucetta décelait l'attente. Elle s'habilla pour Enchard et attendit impatiemment sa visite avant midi. Ne l'ayant pas vue venir, elle resta chez elle jusqu'au soir, mais elle ne dit pas à Elisabeth que la visite attendue était celle de son beau-père. Les deux femmes se tenaient aux deux fenêtres adjacentes du boudoir, dans la grande maison de pierre de Lucetta. Elles faisaient du crochet et regardaient la scène animée du marché. Elisabeth distinguait dans la foule la calotte du chapeau de son père, sans se douter que Lucetta suivait le même objet avec un intérêt plus vif encore que le sien. Enchard circulait dans la foule, ici grouillante comme une fourmilière, là plus calme et dispersée par des étalages de fruits et de légumes. En général, les fermiers adoptaient pour leurs transactions le plein air du carrefour, malgré son gênant encombrement et le danger des véhicules de passage, de préférence au lugubre marché couvert installé à leur intention. C'est cet unique jour de la semaine qu'ils se pressaient au marché, et y formaient un petit monde de jambières, de cannes et de sacs d'échantillons. Il y avait là des hommes au ventre rebondi, inclinés comme des croupes de montagne, des hommes dont la tête se balançait en marchant, comme des arbres sous les bourrasques de novembre, des hommes qui prenaient pour causer des attitudes variées, les genoux écartés et diminuant la taille, les mains plongées dans les poches profondes de vestes inabordables. Leur visage irradiait une chaleur tropicale, car si à la maison leur mine changeait au cré des saisons, leur figure de marché brillait comme du feu d'un bout de l'année à l'autre. Ils portaient leurs habits comme une chose ennuyeuse et une gênante nécessité. Quelques-uns étaient bien vêtus, mais la majorité se montrait peu soucieux de leur apparence, et leurs vêtements proclamaient les faits et gestes de leurs propriétaires depuis des années, accusaient les morsures du soleil et les luttes passées. Beaucoup portaient pourtant dans la poche des carnets de chèques froissés, qui représentaient en banque un crédit de 4 chiffres au moins. Et en fait, ce que personnifiaient ces êtres gibbeux, c'était de l'argent comptant, et immédiatement comptant. Non point à 1 an, comme celui du gentilhomme, non point même seulement déposé à la banque, comme celui de l'homme de profession libérale, mais de l'argent tout prêt, dans leurs grosses et larges pattes. Ce jour-là, on voyait au-dessus des têtes 2 ou 3 pommiers étendre leurs branches, comme s'ils avaient poussé dans le sol. Ils étaient en fait portés par les paysans, arrivés du pays du cidre avec la terre de leur comté aux bottes et qui venaient les vendre au marché. Élisabeth, qui les avait souvent vus, s'écria « Je me demande si ce sont les mêmes arbres toutes les semaines. »«
Quels arbres ?» demanda Lucetta, absorbée par la contemplation d'Enchard.
Élisabeth fit une réponse distraite, car un incident venait arrêter les paroles sur ses lèvres. Derrière un des arbres se tenait Farfrae, qui discutait vivement avec un paysan sur un sac d'échantillons. Enchard passa près de lui. Il vit le jeune homme, dont le visage semblait dire « Est-ce que nous allons nous parler ?» Mais il y eut dans ses yeux une lueur qui répondait « Non » et qui fit soupirer Elizabeth Jane. « Y a-t-il donc là quelqu'un à qui vous vous intéressiez spécialement ?» demanda Lucetta.
« Oh non !» reprit la jeune fille, dont un flot de sang empourpra le visage.
Lucetta la regarda d'un œil inquisiteur. « Bien vrai ? » insista-t-elle. « Bien vrai, » répondit Elizabeth Jane. Lucetta jeta les yeux par la fenêtre. « Ce sont tous des fermiers, je suppose. »«
Non, il y a Monsieur Bulge, le marchand de vin, Benjamin Brownlett, qui est maquignon, Kitson, l'éleveur de cochons, et Yopper, le commissaire-priseur. Il y a aussi des brasseurs, des meuniers et d'autres gens encore. »
Elle ne fit pas mention de Farfrae, qui était pourtant en pleine vue maintenant. L'après-midi du samedi se passa ainsi pour les deux femmes, en propos décousus. Sur le marché, l'examen des échantillons était terminé, et l'heure était venue des bavardages oiseux avant le départ. Enchard n'était pas venu voir Lucetta, bien qu'il se fût trouvé tout l'après-midi si près d'elle. Il avait été sans doute trop occupé, se disait la jeune femme, il viendrait dimanche ou lundi. Mais les 2 jours passèrent, sans amener le visiteur. Lucetta, qui avait refait sa toilette avec un soin scrupuleux, était découragée. Disons tout de suite d'ailleurs qu'elle ne concevait plus pour Enchard l'attachement ardent qu'elle avait ressenti au premier temps de leur connaissance. La malheureuse issue de leurs amours avait glacé en elle la pure tendresse d'autrefois. Mais elle gardait le consciencieux désir de réaliser une union qu'aucun obstacle ne pouvait plus interdire, et de régulariser sa situation, ce qui était en soi un bonheur souhaitable. Si de bonnes raisons mondaines rendaient de son côté un tel mariage nécessaire, il n'y en avait aucune non plus pour le faire différer à Enchard, depuis qu'elle avait hérité d'une fortune sérieuse. Le mardi était le jour de la Chandeleur. Au déjeuner, Lucetta dit d'un air négligent à Élisabeth « Votre père va peut-être venir vous voir aujourd'hui. Il doit passer la journée au marché avec les autres marchands de grains. » Élisabeth secoua la tête. « Il ne viendra pas. Pourquoi cela ?»«
Il est trop monté contre moi, » soupira la jeune fille d'une voix sourde. « Vous seriez-vous querellée plus sérieusement que je ne le croyais ?»
Élisabeth, qui ne voulait pas entendre accuser de sentiments anormaux l'homme qu'elle croyait être son père, répondit oui.
Alors la maison où vous vivez serait entre toutes celles qu'il voudrait fuir ?
La jeune fille hocha tristement la tête. Déconcertée, Lucetta crispa ses fins sourcils et ses lèvres charmantes et éclata en sanglots convulsifs. C'était un désastre, et ses ingénieux projets sombraient dans le ridicule.
« Oh, cher Miss Templeman, qu'y a-t-il donc ? » s'écria sa compagne.
« Votre présence m'est bien agréable, »
fit Lucetta quand elle put articuler une parole.
« Oui, oui, et je suis bien heureuse aussi près de vous, » murmura Élisabeth d'un ton caressant.
« Mais... »
La jeune femme ne put achever sa phrase. Elle eût voulu expliquer que si Enchard nourrissait pour la jeune fille l'aversion prononcée que les faits semblaient accuser, elle devrait se séparer d'elle, ce qui serait une obligation fort déplaisante. Une solution provisoire s'offrait pourtant.
« Miss Enchard, voulez-vous aller me faire une commission dès que nous aurons fini de déjeuner ? Ah, c'est bien aimable à vous. Vous me commanderez... »
Elle énuméra des emplettes multiples,
dans des boutiques éloignées qui devaient retenir Élisabeth au dehors pendant une ou deux heures au moins. « Et avez-vous jamais visité le musée ?» Élisabeth n'y était jamais entrée. « Alors il faut y aller tout de suite, vous y achèverez la matinée. C'est une vieille bâtisse, dans une rue détournée, je ne sais plus où, mais vous trouverez bien. Vous y verrez toutes sortes de choses intéressantes. Des squelettes, des dents, des vieux pots et des vieilles casseroles, des bottes et des souliers d'autrefois, des œufs d'oiseaux, tous objets amusants et instructifs. Restez là-bas, jusqu'à ce que vous ayez bien faim. » Élisabeth s'habilla en hâte et quitta la maison. « Je me demande pourquoi elle veut se débarrasser de moi aujourd'hui, » se disait-elle avec tristesse, en marchant. Que Lucetta voulût s'assurer de son éloignement plutôt que de ses services ou de son instruction, la chose était bien évidente pour Élisabeth Jane, malgré toute sa naïveté, et malgré sa peine à trouver un motif à pareil désir. Elle n'était pas partie depuis 10 minutes qu'une des servantes de Lucetta courait à la maison d'Enchard pour lui porter cette brève missive. « Cher Michel, vos affaires vont vous amener aujourd'hui à ma porte pendant 2 ou 3 heures. Faites-moi donc le plaisir de monter me voir. Je suis tristement désappointée de n'avoir pas encore reçu votre visite. Je ne puis concevoir sans inquiétude la nature équivoque de nos relations, surtout depuis que la fortune de ma tante m'a valu une situation plus en vue dans la société. » Jugeant que la présence de votre fille pouvait être la cause de votre abstention, je l'ai envoyée au loin pour toute la matinée. Dites que vous venez pour affaires, vous me trouverez seule, Lucetta. » Lorsque la servante revint, sa maîtresse lui donna l'ordre de faire entrer tout droit le visiteur qui pourrait se présenter, et s'assit dans l'attente des événements. Elle se souciait assez peu, au point de vue sentimental, de revoir un homme dont les hésitations avaient lassé sa patience. Mais cette entrevue était nécessaire, et elle prit en soupirant sur sa chaise une pose étudiée. Elle essaya une attitude, puis une autre, s'arrangea à faire tomber la lumière par-dessus sa tête. Elle finit par se jeter sur le sofa, dans la pose sinueuse qui lui seyait si bien, un bras sur le front, les yeux tournés vers la porte. C'est ainsi, décidément, qu'elle était le mieux à son avantage, et elle resta sans bouger jusqu'à ce qu'un pas d'homme se fît entendre dans l'escalier. Alors, oubliant sa posture savante, car la nature était encore trop forte en elle pour ne pas étouffer l'artifice, Lucetta, saisie de panique, bondit et courut se cacher derrière un des rideaux. Malgré le déclin de leur passion, la situation ne laissait pas d'être émouvante, puisqu'elle n'avait plus revu Enchard depuis cette séparation de Jersey, qui avait dû être de si courte durée. Elle entendit la servante introduire le visiteur dans la pièce et fermer la porte sur lui, comme pour aller chercher sa maîtresse. Lucetta rejeta le rideau avec un bonjour ému. L'homme qui se tenait devant elle n'était pas Enchard.